16h, Ève Roger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie, accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure, c'est la vôtre. On va parler pendant une heure d'une drôle de configuration amoureuse. Les trouples, les couples à trois, trois hommes ou trois femmes, c'est le cas le plus courant. Mais ça peut être aussi deux hommes et une femme, ou deux femmes et un homme. Alors ce mot valise, contraction de couple et de trois, est apparu il y a une dizaine d'années. Difficile de dire aujourd'hui combien de personnes vivent ainsi. Dans le monde, il existe un trouple officiellement marié en Colombie, un autre aux États-Unis, en France. Mystère, les trouples préfèrent vivre cachés, car notre société accepte mal ceux qui sortent de la norme. Déjà, il a fallu du temps pour accepter les couples du même sexe, alors un trouple. Et c'est vrai, c'est compliqué d'assumer une vie amoureuse à trois. Ce triangle où chacun entretient une relation avec les deux autres, à égalité. Une relation conjugale, quotidienne, parfois sous le même toit, parfois pas. Un triangle amoureux, sincère, mais souvent fragile. Alors bien sûr, si les sentiments et les émotions se vivent puissance 3, les difficultés aussi. Peut-on aimer deux personnes à la fois avec la même intensité? Comment gérer les risques de jalousie? Et puis des questions matérielles aussi. Comment dort-on à trois dans un lit? Combien de chambres doit-on réserver à l'hôtel? Comment gérer les enfants quand il y en a ou quand on en veut? En bref, peut-on être heureux en trouble? Les troubles existent-ils vraiment? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous votre histoire d'amour à trois. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, et pour joindre Ève Roger, appelez-nous au standard d'Europe 1, 39 21 50 centimes d'euros la minute. Vous nous laissez un petit message et si vous êtes sélectionné, bien sûr, on vous rappelle. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola.
Deux hommes amoureux de la même femme, vous avez reconnu Ève, la musique de Jules et Jim, le tourbillon donc pour débuter cette émission.
Et nous sommes maintenant avec Nico. Bonjour Nico, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Ah ben merci beaucoup. Bonjour à vous.
Bonjour, dites-moi, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Là, je vous parle de Bourgogne, mais je suis parisien, j'ai 32 ans.
32 ans. Alors vous, Nico, vous êtes en trouble avec deux hommes qui s'appellent Fred et David. Pouvez-vous nous raconter comment c'est arrivé?
C'est arrivé un peu par hasard. Moi, je suis en couple avec Fred depuis 5 ans. Et on cherchait un troisième, histoire, on va dire, très crûment, de donner un peu de piment à notre vie sexuelle.
Ouais.
Et on est tombé sur David, et au final, ça a été beaucoup plus que juste une troisième personne avec qui coucher. Ça a été des sentiments qui se sont développés. Et ça s'est développé de la même façon, tant pour Fred que pour moi ou que pour David. Donc alors on s'est dit, pourquoi pas se lancer.
Vous dites on est tombé sur David par hasard dans la rue? Comment ça, vous avez trouvé David?
Non, c'est via des réseaux sociaux.
Via des réseaux sociaux. Alors, vous ne dites pas trouble, mais triamour, pourquoi?
Déjà parce que je trouve que le mot trouble est juste ignoble à dire.
Ah, c'est vrai, il est difficile en plus à dire, vous avez raison.
Et puis il y a le côté triamour, ça donne pour moi un côté un peu plus installé, c'est-à-dire qu'on peut imaginer c'est une passade, c'est quelque chose de sexuel, et en fait le triamour ça insinue le fait, ça met en avant le fait qu'il y a de l'amour là-dedans quoi.
Et justement ça dure depuis combien de temps votre triamour?
Ça fait 9 mois.
9 mois, c'est quand même pas très long, 9 mois.
Alors, non, c'est pas très long.
Est-ce que vous dites c'est tombé sur vous un peu par hasard? Est-ce que vous avez hésité à vous lancer dans cette histoire d'amour à trois?
En fait, c'était vis-à-vis de Fred, c'était savoir si on était exactement sur le même plan amoureux, s'il lui ressentait les choses comme je voulais les ressentir, parce qu'en fait, à la base, le couple, c'est nous, et je voulais pas, on n'avait pas envie de mettre notre couple en danger là-dessus.
Ouais.
Et à partir du moment où on s'est rendu compte que les deux avaient envie de se lancer, moi, comme je dis, j'ai la chance de pouvoir être amoureux de deux personnes en même temps, sans qu'il y ait infidélité ou tromperie ou des choses à cacher. Donc je me suis dit, c'est quand même une belle opportunité de pouvoir vivre les choses pleinement.
Et est-ce que vous diriez que vous aimez tous les trois à la même intensité ou il y a des différences entre vous trois?
Non, il y a forcément des différences parce que je connais Fred depuis 5 ans, je connais David depuis 9 mois. Donc en fait, on n'est pas du tout sur... On apprend à se connaître encore, même si avec Fred, on continue à apprendre à se connaître. Donc on ne s'aime pas forcément de la même façon, mais on a toujours voulu que, par contre, il n'y ait pas des sentiments qui soient plus forts pour l'un que pour l'autre. Ça a été le but, c'était le sentiment amoureux doit être partagé entre les trois. S'il y a un déséquilibre, ça arrêterait la relation.
Donc le principe pour vous, c'est qu'il faut forcément équilibre et vous vous attachez à ce que cet équilibre soit maintenu.
Oui, mais que ce soit maintenu entre Fred et moi, qu'il n'y ait pas...
Fred, c'est votre compagnon d'origine, j'allais dire.
Exactement. Mm-hmm. Et qu'il n'y ait pas, comme les gens peuvent le dire, mais c'est qu'il vous manquait quelque chose entre vous. Je fais non, pas du tout. C'est juste que ça s'est présenté, on a voulu le vivre. Donc qu'il n'y ait pas ce côté déséquilibre de nous deux depuis 5 ans. Et que David ne se sente pas comme le troisième.
Ah oui.
C'est-à-dire toujours le plus sain du couple. Donc faire en sorte que quand ils viennent habiter avec nous, on va déménager et trouver un autre appartement, qu'ils ne viennent pas habiter chez nous, mais qu'on ait un appartement à trois. Donc voilà, la question se pose comme ça, que ça se passe trois, que ça ne passe pas deux plus un.
Mais est-ce qu'on n'a pas un peu plus de désir pour le dernier arrivé, en quelque sorte, puisqu'on a l'habitude avec le compagnon d'origine ?
Oui, peut-être, mais à côté de ça, c'est aussi... Il y a de ça, mais je pense qu'il y a surtout le fait qu'à côté de ça, quand on veut faire l'amour, on veut le faire à trois. Et c'est ça qu'on privilégie tout le temps.
Ça veut dire que vous faites l'amour qu'à trois, jamais à deux ?
Non, on le fait à deux, parce qu'au cas où il y en a un qui travaille, il y en a qui sont en week-end, on va pas jouer les nonnes pendant deux jours à se regarder dans le blanc des yeux.
Ouais.
Mais en tout cas, quand on est à trois, on privilégie le fait de le faire à trois.
Et alors justement, pour éviter les jalousies, les tensions, est-ce que vous avez fixé des règles ? C'est-à-dire se voir toujours à trois ou parfois à deux ? Vous nous avez dit que non, mais est-ce qu'il y a des règles qui sont fixées et auxquelles vous vous tenez ?
Non, en fait, entre nous, la jalousie, elle n'existe pas vraiment. C'est vraiment, la jalousie pour nous, elle vient toujours, on va dire, d'un élément extérieur. Donc en fait, on est complètement monogame dans le fait d'être tous les trois.
Ça, je comprends pas ce que vous voulez dire d'un élément extérieur, ça veut dire quoi ?
C'est un quatrième, un cinquième, regarder quelqu'un dans la rue, se faire approcher par quelqu'un, etc. Les deux autres peuvent être jaloux, mais en fait, la jalousie vient toujours de l'extérieur, mais jamais à l'intérieur.
D'accord. Et vous dormez toujours tous les trois ensemble ? Est-ce que les lits sont assez grands pour vous ?
On va dire qu'on a la chance d'avoir un 180, ça aide beaucoup.
Un lit, c'est qui fait 180 cm de large, c'est bien ça ?
Exactement.
Donc ça laisse assez de place pour vous trois.
Voilà, bon après on n'hésite pas à se dire qu'on va peut-être prendre un 2 mètres, histoire d'être vraiment très à l'aise.
Et dites-moi, et quelles sont pour vous les conditions pour que le couple fonctionne, pour qu'il tienne dans la durée ?
Beaucoup d'écoute. Et alors, surtout beaucoup de communication, en fait, de manière générale. Mais bon, ça, je dirais que ça marche pour les couples aussi, en fait. Mais là, ça demande, on va dire, trois fois plus d'efforts, c'est le cas de le dire.
Ouais.
De telle façon à ce que tout le monde ait le même niveau d'information, qu'il n'y en ait pas un qui dit « Ah bah oui, mais moi, j'étais pas au courant ». Donc, en fait, voilà, beaucoup d'écoute, de communication. Et en fait, qui fait que pour le moment, ça marche très bien, c'est qu'à côté de ça, on n'a jamais hésité à se dire les choses, même si elles ne sont pas agréables, histoire, en fait, de ne pas laisser de sous-entendus qui peuvent faire courir la relation, en fait.
Et très rapidement, je disais tout à l'heure, les émotions et les sentiments ont été multipliés par trois, c'est vraiment le cas ?
Je ne sais pas si je peux utiliser ça. C'est juste que j'ai la chance de pouvoir regarder à droite, je suis amoureux de quelqu'un, de regarder à gauche, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Moi, je vais juste dire, ça, pour ça, c'est plus à ce niveau-là. C'est qu'on baigne dedans, on est encore moins celle que d'habitude, comme on pourrait l'être.
Mm-hmm.
Après, est-ce que c'est x3, x2 ? Ça, en fait, chez chacun vit
sa
relation.
C'est plus, disons. En tout cas,
oui, en tout cas, ça ne peut pas être moins.
Merci beaucoup, Nico, de nous avoir fait partager votre expérience. À très bientôt. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Loïc, qui a formé pendant quelques temps un couple avec deux femmes.
Europe 1. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1 pour la joindre et raconter votre histoire. Composez le 3921 ou laissez-nous un petit message sur Twitter, hashtag Europe 1 ou encore sur la page Facebook de l'émission. On vous attend.
Ève Roger sur Europe 1.
Qu'est-ce que vous racontez ?
Qui ?
Eh bien, Rosalie, vous parliez là.
Je vais vous dire la vérité, César. J'aime Rosalie.
C'est normal, ça. Tout le monde l'aime. Non, mais... Vous parlez sérieusement, hein ?
Un extrait du film de Claude Sauté, César et Rosalie, un triangle amoureux comparable un petit peu à Jules et Jim. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h, partageant nos expériences de vie. Alors on ne parle pas des relations de couple, mais des relations de troupe.
Hein, on peut le dire comme ça. Merci Marlène. Nous sommes maintenant en ligne avec Loïc. Bonjour Loïc, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Ève, merci.
Alors quel âge avez-vous Loïc et d'où nous appelez-vous ?
42 ans, Bourgogne, à côté de Chalon-sur-Saône.
À côté de notre auditeur précédent.
Dites-moi, voilà, c'est ça, tout à fait.
Loïc, vous avez vécu quelque temps en couple avec deux femmes. Alors, racontez-nous comment Eva est arrivée dans votre vie de couple, parce que c'est comme ça que c'est arrivé.
Alors, c'est arrivé, en fait, par une faute de ma part, on va dire. Mm-hmm. J'étais en relation, disons, avec Angélique. Et puis, j'ai rencontré donc Eva dans le milieu motard. Et puis, on a eu un rapprochement qui a fait que, voilà, on a eu une liaison cachée pendant plusieurs mois.
Une liaison cachée de votre femme, hein, Angélique.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et puis, ensuite, comment vous avez parlé, je crois, à votre femme ?
Voilà, la situation donc était invivable, cachée comme ça. Je n'acceptais pas du tout cette situation. Ça devenait trop compliqué à gérer. Et puis voilà, c'était pas honnête non plus. Donc du coup, en courant septembre, j'ai prévenu Angélique que ça faisait 4 mois que j'avais une relation cachée donc avec Eva.
Comment elle réagit ?
Mal, forcément. Je pense qu'on n'accepte pas d'être trahi et trompé après une dizaine d'années de couple, forcément. Et puis, donc au départ, c'était divorce, c'était on va se séparer, etc. Et puis, de fil en aiguille, on s'est, après du dialogue, etc., etc., et ben, on va dire que moi, j'arrivais pas à faire deux choix. J'ai eu à la base un choix à faire. Je l'ai fait très rapidement en disant « Eva, bah, je mets fin à notre relation, j'ai des enfants, j'ai une famille, etc. Mmh. » Donc ces femmes, en fait, ça n'a pas marché du tout, ça a duré même pas un week-end, et le lundi, on recommuniquait ensemble.
Elle vous manquait trop ?
Voilà, et à partir de là, j'ai expliqué à Angélique que c'était impossible de faire ce choix, tout simplement, que j'étais vraiment amoureux des deux. Et puis, de fil en aiguille, de dialogue en dialogue, elle a commencé à rencontrer Eva par rapport à des histoires, parce qu'après, il y a toujours des histoires à droite, à gauche, qui viennent se mêler forcément aux relations. Et puis, à partir de là, il y a eu un dialogue qui a commencé à s'instaurer. Et puis, de ce dialogue, Eva est venue une fois manger ou deux à la maison. Et puis, un jour, Angélique m'a fait la surprise de ramener Eva à la maison.
Ah, et Eva s'est installée chez vous ?
Alors Eva, c'est pas installé tout de suite chez nous, puisqu'au départ, bon, vous imaginez bien que ça s'est pas fait
non,
du jour au lendemain.
Non, j'imagine,
sûrement. Il y a eu quelques semaines de passé. Au départ, j'avais un petit peu, j'avais ma femme à la maison et ma maîtresse à l'extérieur, ce qui était tout aussi difficile à vivre en situation. C'était une culpabilité énorme. Partir chez soi pour aller voir sa maîtresse ou laisser sa maîtresse pour rentrer voir sa femme et sa famille. Non.
Donc là, c'est plutôt l'inverse. Vous aviez votre femme et votre maîtresse à la maison. Mais est-ce qu'elles-mêmes, elles avaient des relations entre elles ?
Alors, après, donc, ce qui s'est passé quand on a commencé à s'installer à trois, oui, il y a eu des relations qui se sont créées et ça a été vraiment ce qu'on peut appeler une triade.
Ah, vous ne vous dites pas trouble non plus ? C'est triade.
Non, c'est pas beau. Mmh. C'est pas beau, ce mot, il n'est pas beau. Et,
ah, je crois qu'il y a consensus là-dessus. Hein.
Voilà, c'est une certitude. C'est ce que disait le Nico avant, c'est exactement ça, le mot n'est pas beau. Après, bon, triamour, c'est joli aussi, nous, c'était triade.
Et donc, cette triade, ça marchait comment au quotidien ?
Alors, ça a bien marché un temps. La puissance d'être trois personnes ensemble qui s'aiment, ça peut être très fort. Mais très vite, il y a eu un déséquilibre qui s'est créé de par de la jalousie, de par des choses qui n'étaient pas acceptées. Et je pense qu'en fait, le choix, j'écoutais Nico ce qu'il disait juste avant, c'est un couple qui a fait un choix d'avoir une troisième personne. Et là, nous, à l'inverse, c'était une personne qui a choisi de faire une triade à trois. Je pense pour se préserver elle-même, de perdre son mari, etc. etc.
Là, et vous parlez d'Angélique, votre épouse.
Voilà, tout à fait.
Donc, elle s'est sentie un peu forcée pour ne pas vous perdre, c'est ça que vous dites ?
Voilà, je pense, oui, tout à fait.
Mais est-ce que vous dites, à un moment, ça s'est quand même bien passé ? C'est-à-dire que, est-ce qu'elle a pu à un moment tomber aussi amoureuse d'Eva ?
Oui.
Alors, vous dites, la difficulté, c'était la jalousie d'Angélique. Elle ne supportait pas que vous soyez aussi avec Eva, c'est ça ?
C'est ça. Après, comme on peut expliquer, et Nico l'a souligné juste avant dans le reportage, et ça m'a fait sourire, quand on parlait de relations, vous imaginez bien, 10 ans de couple, et puis quelques mois avec une autre personne. Donc il y a toute une construction à faire, j'avais une construction à faire avec Eva, même si la triade fonctionnait, il y avait aussi une individualité à construire quelque chose avec l'autre, donc ce qui était nouveau, Angélique le faisait aussi à ce moment-là avec Eva. Et forcément, c'est peut-être plus d'attention, c'est peut-être plus de choses là, au détriment peut-être de l'autre aussi. À un moment donné, il faut être honnête avec soi-même, et peut-être que j'ai délaissé, alors pas forcément consciemment, mais que j'attachais peut-être plus d'importance à une relation naissante, et que je m'appuyais aussi également sur mes acquis de 10 ans de couple, avec des choses qu'on ne faisait plus.
C'est Angélique qui souffrait de la situation, en réalité.
C'est ça, tout à fait. Tout à fait.
Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, Loïc ?
Je suis en cours de divorce avec Angélique, qui a préféré partir parce que la situation ne lui convenait plus et que, par rapport à plein de choses, justement, qu'on avait beau expliquer que pendant un temps, on peut être compréhensif, que voilà, elle a été trompée, etc., etc., mais qu'à un moment donné, elle a fait le choix aussi de vouloir cette vie-là. On l'a annoncé aussi à la télé, puisqu'on avait fait une émission de télé par rapport à ça. On a fait un gros buzz, d'ailleurs, dessus, où, voilà, elle a expliqué, mais c'est pas le tout d'expliquer, de dire on fait ça et ça marche, parce qu'à ce moment-là, ça marchait plutôt pas mal.
Et donc là, aujourd'hui, c'est terminé. Le triamour, oui, la triade est terminée, et vous, aujourd'hui, vous êtes resté avec l'une des deux?
Voilà, je suis resté avec Eva. En fait, c'est Angélique qui est partie, puisque la triade, elle a été morte il y a plusieurs mois en arrière.
Ouais.
Il y a eu une cohabitation avec des choix à faire, mais là, les choix étaient invivables à trois, donc il fallait prendre les décisions unanimes par rapport aux enfants, par rapport à nous aussi. Et
donc,
voilà.
Loïc, je vous appellerai pour une autre émission pour nous raconter de votre histoire d'amour avec Eva. En tout cas, je vous remercie mille fois de nous avoir fait partager votre expérience. Dans quelques instants, nous serons avec Alexia Bacou, qui est sexothérapeute et auteur des Dessous du plaisir aux éditions Idéo.
Et Eve, Jérôme nous a laissé un petit message pour nous dire qu'après plusieurs échecs de couple, il se demande si vivre en trouble serait une solution viable. Et il ajoute, je pense que parfois deux femmes peuvent mieux se comprendre. Je parle vraiment d'une vie à trois et pas d'un plan à trois. Et il aimerait savoir comment faire pour trouver ces deux âmes sœurs.
Europe 1.
N'hésitez pas vous aussi à nous laisser un petit message. Vous pouvez nous contacter au standard 3921. Il y aura quelqu'un pour vous accueillir, bien sûr. Et puis le hashtag Europe 1 sur Twitter et la page Facebook de l'émission. On reste là jusqu'à 16h.
Ève Roger sur Europe 1.
Petit salaud, qui tu préfères? Qui tu veux? Fais ton choix. Le bon vieux temps, la nouvelle ère. C'est elle ou moi?
15h18, un extrait de la chanson « Je n'aime que toi » du film « Les chansons d'amour » de Christophe Honoré pour poursuivre cette émission sur les troupes. Nous sommes avec Eve Roger jusqu'à 16h sur Europe 1. On parle donc des troupes, ces couples à trois où l'on essaie de s'aimer à égalité, un amour puissance 3, malgré la jalousie et les difficultés du quotidien. On attend bien sûr vos appels au 3921.
Et je me tourne maintenant vers vous, Alexia Bacouel. Vous êtes sexothérapeute et auteur des Dessous du plaisir aux éditions Idéo. Merci beaucoup d'être en direct en studio avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Merci, bonjour.
Dites-moi, quelle est pour vous la définition du trouble? Alors, est-ce qu'on a entendu plusieurs exemples? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une relation amoureuse entre chaque membre du trio pour qu'on parle vraiment de trouble ou de triamour ou de triade?
Eh bien, ce que ça montre aujourd'hui, c'est qu'il y a mille et une façons de définir son couple, finalement. Chacun est libre un petit peu de définir comment on va vouloir lui donner, quel nom on va vouloir lui donner à cette histoire.
Vous dites comment vous, quel est le terme que vous employez?
Je parle plutôt de polyamour parce que en fait, à partir du moment où on est plusieurs et qu'il y a des histoires d'amour, voilà, c'est une pluralité, donc il y a du polyamour. Je crois que on peut pas définir le couple comme le troupe, comme les personnes qui vont être en couple libre ou comme les personnes qui vont aller dans le libertinage.
On peut pas mettre d'étiquette, c'est ça que vous dites?
On peut le faire, mais encore une fois, on va essayer de coller à une norme. Et du coup, c'est compliqué de ce point de vue-là de vivre ce que l'on a envie de vivre réellement, finalement.
Si on essaie de ressembler à une norme. Mais pour moi, dans le trouble, il y avait cette idée quand même d'une fidélité à trois. Que c'était pas complètement ouvert comme le polyamour.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on essaye de construire une vie à trois. Mais là encore, moi, je pose toujours cette question. La fidélité, qu'est-ce que c'est réellement? C'est parce que c'est une question assez subjective. Si dans un couple même, par exemple, on est deux et que certains vont considérer que d'embrasser, c'est tromper, peut-être que d'autres considéreront que ce sera de coucher qui serait trompé. Donc, finalement,
même la fidélité est difficile à définir. Eh
ben oui, voilà,
façon.
C'est vraiment très subjectif et propre à chaque personne, finalement.
Est-ce que vous savez si les troubles sont nombreux en France? Parce que c'est vrai que c'est difficile. On en a trouvé ici parce qu'on a beaucoup cherché. Est-ce qu'ils concernent plus les homosexuels, les hétérosexuels? Est-ce que vous avez des notions là-dessus?
Alors, effectivement, y a plus de polyamour et plus de troubles chez les gays, parce que ce sont des personnes qui ont su un peu se sortir des carcans, justement, parce que leur histoire de toute façon, fait que on peut sortir plus facilement du carcan une fois qu'on en est déjà sorti mmh. une première fois. Ouais. Et donc on peut se construire différemment. Mais c'est vrai que aujourd'hui on va avoir plus en plus de personnes qui se questionnent sur le sujet. Alors là, c'est il y a des personnes qui vont être bisexuelles, qui vont être hétérosexuelles, mais du coup voilà, il y a vraiment un intérêt grandissant
que vous
en
sentez.
Tout cas. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez un cabinet de curiosité, fondé le cabinet de curiosité féminine, vous animez des ateliers.
Oui.
Et est-ce qu'il y a un profil de gens qui sont attirés par cette mode de vie, ces relations amoureuses à trois, puisque c'est notre sujet aujourd'hui?
Oui, alors je pense que il n'y a pas un profil type, parce que j'ai eu le sentiment que beaucoup de gens se questionnaient, que ce soit des femmes comme des hommes. En revanche, ce sont quand même des personnes généralement qui réfléchissent à la question de la sexualité, de la jalousie, etc., d'exclusivité, et donc le fait de pouvoir un petit peu être dans la compersion finalement. Donc,
dans la
compersion.
Ah, ça, je ne connais pas ce mot-là.
Bah, c'est vraiment l'opposé de la jalousie, c'est-à-dire le sentiment qu'on éprouve quand on se réjouit du bonheur de l'autre.
Ah oui, il faut que je l'apprenne, ce mot-là, vous avez raison.
et du coup, voilà, ça c'est... la question de possession aussi. Mm-hmm. Voilà, quand on est capable un peu de réfléchir à tout ça, eh ben on va pouvoir un peu réfléchir à la relation elle-même qu'on pourrait construire nous éventuellement.
Mais est-ce que tous considèrent qu'une seule personne, ça suffit pas à notre bonheur? Est-ce que c'est ça la base?
Non, je crois que au-delà, alors oui, il y a cette question-là, mmh. évidemment, qu'une seule personne n'est pas là pour combler nos failles à nous, oui. évidemment.
Enfin, je parlais de plaisir, de désir, de bonheur.
Mais bien sûr, il y a cette question-là. Après tout, quand on a plusieurs enfants, on aime nos enfants de la même manière. Ouais. Pourquoi on ne pourrait pas aimer de la même manière d'autres personnes amoureusement? Et finalement, alors oui, il le disait tout à l'heure très bien, c'est qu'il n'y a pas forcément... On essaye de trouver un équilibre, mais on n'aime pas les personnes pour les mêmes choses. Et donc, forcément, il va y avoir quand même des enjeux qui vont être assez importants. Et donc, la communication sera vraiment la clé essentielle
pour que ça
fonctionne.
Oui, c'est ce que disait Nico. D'accord. Voilà. On y reviendra. Restez avec nous, Alexia Bacquel. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et auteur des Dessous du plaisir aux éditions Idée. Et dans quelques instants... Ouais. Nous allons accueillir Suzy et elle nous racontera comment elle est entrée dans la vie d'un couple marié depuis 17 ans.
Europe 1. Jamais 203. Pensez-vous que le trouble soit une forme de polyamour? D'ailleurs, dites-nous quel mot vous préférez, hein, quel terme précisément. Trouble, polyamour, est-ce que pour former un trouble, faut-il d'abord être en couple? Vous pouvez nous laisser un petit message, dites-nous ce que vous en pensez. Benjamin vous attend au 3921, c'est le standard d'Europe 1. Hashtag Europe 1 aussi sur Twitter et la page Facebook de l'émission.
Mon Dieu, de bordelette de merde, mais qu'est-ce qu'il t'a fait?
Mais rien de spécial.
Que des choses normales?
Mais oui, je te jure.
C'est pas possible. Il a dû te faire des trucs qu'on connaît pas.
Non.
On connaît tous les trucs.
D'ailleurs, c'est moi qui ai tout fait.
Comment ça? D'habitude, tu fais rien, toi.
Bah oui, mais seulement là, il pouvait rien faire, il était paralysé.
T'es le trac?
Quand tu parles, il tremblait de partout. Il regardait mon corps, il osait pas me toucher. Il a fallu que je le déshabille moi-même, sinon on y serait encore.
Culte, Patrick Devers, Gérard Depardieu, Miu Miu, les valseuses, bien évidemment, pour poursuivre cette émission sur les couples à trois. Nous écoutons Ève Roger jusqu'à 16h, partageant nos expériences de vie et on vous attend toujours au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Suzy. Bonjour Suzy, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors Suzy, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 49 ans.
Ah, vous avez un chien aussi?
Non, parce que là je suis en vacances, mais je suis de Toulouse.
Donc il ne vous appartient pas, ce chien?
Non.
Nous l'entendons bien, mais il ne fait pas partie du troupe. Vous êtes entrée dans la vie d'un couple marié depuis 17 ans. Le couple était marié depuis 17 ans, Cathy et Sébastien. Et racontez-nous comment ça s'est passé.
Alors, moi j'ai connu Cathy et Sébastien en 2012,
ouais.
Par annonce sur Internet.
Mmh.
Cathy cherchait une femme. En cherchant sur Internet, j'ai trouvé son annonce. Je l'ai contactée.
Et vous cherchiez quelque chose d'autre ou vous cherchiez un couple, justement?
En fait, non. Je ne cherchais personne. En fait, je suis bisexuelle depuis l'âge de mes 13 ans. Mais j'avais personne dans ma vie. Et puis, j'étais pas bien. J'avais un manque. Il me manquait une personne féminine. Et pour une première fois de ma vie... J'ai fait les petites annonces.
Mmh. Et vous êtes tombée sur le couple Cathy et Sébastien?
Voilà, sur l'annonce de Cathy, c'est elle-même qui a passé l'annonce. Et comme on est de Toulouse, donc on a très vite communiqué par SMS. Mm-hmm. Cinq jours après, on s'est vus. Mais par SMS, on avait déjà communiqué nos photos. Et donc, moi, j'avais déjà le coup de foudre.
À distance.
Oui. Mm-hmm. Et elle, non. Quand on s'est vus cinq jours après, dans un café, elle, c'était vraiment pas le coup de foudre.
Il a fallu un peu de temps, mais maintenant, je crois que c'est bon. Je crois qu'elle est tombée aussi amoureuse de vous. Hein. Mais alors, vous êtes tombée amoureuse l'une de l'autre, mais vous n'êtes pas tombée amoureuse du mari de Cathy.
Non. En fait, c'était bien précisé dans l'annonce qu'elle recherchait une femme.
D'accord.
Et moi, j'avais bien compris. Et donc, voilà.
Alors, ce qui est étonnant, c'est ce que vous avez raconté, c'est que, à notre assistant Benjamin, c'est que vous êtes installé chez eux. Comme ça.
Oui.
Au début.
Pas un an après.
Oui.
Un an après. Parce que c'était plus. C'était difficile parce que je désirais la voir à mes côtés. Mmh. Et pour moi, c'était la seule solution, c'était de vivre avec eux.
Et lui était d'accord, Sébastien ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très ouvert. Et lui, à 21 ans, elle s'est aperçue qu'elle aimait les femmes.
Ah oui.
Et donc, lui, il lui a dit, tu peux aimer les deux à la fois.
Donc, vous êtes installé chez eux, ce qui était étonnant, vous êtes installé dans le salon ?
Au début. Au début, maintenant on a notre chambre chacun, sauf Cathy qui va quand elle dort avec Sébastien, elle va dans la chambre de chez Sébastien, ou avec moi.
Et c'est organisé ça, c'est une semaine avec l'un, une semaine avec l'autre, une nuit avec l'un, une nuit avec l'autre?
Oui, c'est une semaine avec l'un, une semaine avec l'autre, et les enfants sont au courant parce qu'ils ont deux enfants.
Ouais.
Et
qu'est-ce qu'ils disent les enfants?
Le principal, c'est qu'il y a papa et maman.
Donc, papa et maman, c'est Cathy et Sébastien. Et vous êtes qui pour eux, alors?
Eh bien, en fait, au début, ils m'appelaient, surnom papa. Et puis après, ils m'ont dit, ben non, t'es l'amie de maman. Mm-hmm. Ils m'appellent Suzy.
Et vous menez une vie comme ça, sous le même toit, à cinq?
Oui, et on part en vacances tous les cinq.
Vous partez en vacances, hein?
Oui, là on est parti en vacances tous les cinq.
Avec
en
les
Bretagne.
Enfants. Oui.
Oui. Et là, comme elle est de Bretagne, donc on est chez elle.
Uh-huh. Et vous dormez aussi chacun votre tour avec Cathy?
Oui, tout à fait.
Et ça demande beaucoup de chambres d'hôtel, ça, à vous tous?
Ben non, parce que bon, les enfants, ils sont chez la mamie.
Ouais.
Et puis bon, comme ils ont un handicap l'un et l'autre, on a un appartement qui est accessible.
Ouais.
Donc on prend pour quatre personnes et ça va.
Et comment vous nommez vous-même votre relation? Est-ce que vous dites que vous êtes un trouble? Est-ce que vous dites que j'ai du mal à imaginer? C'est tellement hors des normes.
Oui, mais en fait non. Pour moi. Moi, je dis que j'ai ma partenaire, qu'elle a son mari. Non, je ne me mets pas dans une case. Hein.
Et il n'y a pas de jalousie entre vous? Il n'y a pas de ce sentiment-là qui existe entre vous et Sébastien?
Au début, un petit peu, au début de ma relation. Et maintenant, ça va. Pour moi, non, ça va. Et pour Sébastien, il n'y a jamais eu de jalousie.
Et quel type de relation vous entretenez vous-même avec Sébastien? C'est de l'amitié?
Oui, c'est une grande amitié. Pour moi, c'est comme un petit frère.
D'accord. Et tout le monde est heureux, on dirait.
Comment?
Tout le monde a l'air heureux dans votre histoire.
Oui, mais bon, il y a des hauts et des bas. Mais ça donne beaucoup, beaucoup de c'est plutôt pour Cathy. Des fois, c'est compliqué parce que bon, ben, elle doit être avec l'un. Après, elle doit être avec l'autre. Mais on essaie de s'organiser.
Mmh. En tout cas, restez avec nous, Suzy. Je me tourne vers Alexia Bacouel, qui est notre experte aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute. Est-ce que pour vous, Cathy, Suzy et Sébastien forment un trouble?
Eh ben non, comme elle le dit très bien d'ailleurs, il n'y a pas de relation entre, entre elle et puis Sébastien. Le mari de Cathy. Donc, du coup, comme c'est pas une relation amoureuse, on peut pas considérer que c'est un trouble. En tout cas, ils forment une forme. Enfin, c'est une forme familiale, en tout cas.
Ouais.
Mais voilà, je crois que chacun, encore une fois, voit un peu comme il peut construire à sa manière.
Et ce type de relation, comme ça, vous en voyez régulièrement ? Alors, configurations-là ?
Régulièrement, non. De temps en temps, je dirais que ce n'est pas encore très... en tout cas, peut-être que les gens n'osent pas toujours en parler, même s'ils le vivent. Mais on a déjà plein d'autres configurations qui se sont avérées. Quand on parle, par exemple, d'un couple dont l'un va à une maîtresse ou à un amant, et que finalement, la partenaire de base va accepter, ou le partenaire, enfin le mari, va accepter en fait cette relation parce que...
C'est ce que vous appelez la compersion.
Exactement.
Cas, merci infiniment à Suzy pour son témoignage si sympathique. Dans quelques instants, nous serons avec Alexis, vous allez l'entendre. Il a fait encore plus fort que les autres, puisque lui n'a pas été en trouble, mais en quadruple à quatre. Restez avec nous, nous sommes ensemble en direct sur Europe 1.
Chris nous a laissé un petit message, Eve. Il nous dit « Je pense que le trouble ne se forme pas du jour au lendemain. Je ne suis personnellement pas capable de vivre en trouble, mais il semble que dans ce genre de schéma amoureux, il faut que les sentiments soient partagés des trois côtés et de façon réciproque. Merci d'avoir abordé ce sujet.
Europe 1.
Et vous pouvez vous aussi réagir, faites comme Chris. Vous nous laissez un petit message au 39-21. Benjamin est là pour relever tous vos messages. Hashtag Europe 1 également sur Twitter et la page Facebook de l'émission. A tout de suite.
Eve Roger sur Europe 1.
Europe 1. Il y avait de l'attraction, mais ça a fini en manège à 3. Vas-y, dis-moi son nom, même si tu me cries que tu le connais pas. Arrête de me prendre pour un con, je sais qu'il a dormi dans mes draps. J'aurais dû faire attention, tout a volé en éclat.
Manège à trois, Oshi à l'instant sur Europe 1, on continue à parler des troubles. Existe-t-il vraiment ? Peut-on être heureux en trouble ? C'est le thème de l'émission. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h sur Europe 1 avec vous, Eve Roger.
Et nous accueillons maintenant Alexis. Bonjour Alexis, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors Alexis, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 39 ans et j'habite à Paris.
Alors vous Alexis, vous avez vécu une relation amoureuse, non pas à 3 mais à 4, deux couples de deux hommes. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est arrivé ? Comment vous en êtes arrivé là ?
Alors en fait c'est un ami commun des deux couples, donc qui était québécois. Et donc, il avait prévu de venir sur Paris pour nous rencontrer. Mm-hmm. Il a dit, voilà, j'ai un couple d'amis en fait qui habite à Rouen, et donc, peut-être que ça serait l'occasion de nous voir tous les cinq. Moi, ça m'évitera de voyager. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les cinq. Donc, on a rencontré Martin et Jérôme.
Ouais.
Et donc, ça a commencé comme ça, de manière très informel, je vais dire, vraiment
très amical.
Une amitié, quoi. Voilà. Ouais, très amical, voilà, c'est ça.
Et c'est votre couple, avec ce que vous formez avec Stéphane, qui avait fait une déclaration d'amour à l'autre couple via FaceTime, avez-vous raconté ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est côtoyés de plus en plus régulièrement. Donc, on a fait quelques allers-retours entre Rouen et Paris, en fait, pendant quelques mois. Et de temps en temps aussi, on s'appelait, de plus en plus régulièrement, par FaceTime le soir. Mm-hmm. Parce que ça
tous
devenait
ensemble.
Vraiment des amis.
Mm-hmm.
Oui, tous ensemble, tous les quatre, toujours. Oui. Ouais. Et donc, il y avait des ambiguïtés qui commençaient un peu à émerger et des choses un peu où on voyait bien que c'était plus tellement du registre de l'amitié. Et donc, j'en ai parlé à Stéphane et je lui ai dit...
Votre compagnon ?
Mon compagnon. Et donc, j'ai dit, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il se passe quand même autre chose avec eux, quoi, avec Martin et Jérôme ? Et donc, il a dit, je sens ça aussi de mon côté. Et donc, on a décidé effectivement un soir par FaceTime, on les a vus, on les a dit, on a quelque chose à vous dire. En fait, on croit que c'est un peu plus de l'amitié qu'on ressent pour vous. Et donc, je me rappelle très bien, en fait, ils ont rigolé, ils se sont regardés, ils ont dit, nous aussi.
Ah ouais. Belle déclaration d'amour.
C'était très beau. Ouais.
Et votre histoire donc, d'amour à quatre a commencé. Alors, comment ça se passait au quotidien ? Vous nous l'avez dit, vous n'habitiez même pas la même ville.
Oui.
Alors, c'est de l'amour à quatre et à distance.
Oui, alors pour autant, c'était vraiment à quatre. Hein. C'était vraiment pas... autant effectivement physiquement, c'était 2+2 la semaine, mais juste physiquement, parce que même quotidiennement, en fait, c'était vraiment à quatre. Donc la semaine, c'était beaucoup d'échanges de textos. C'était tous les soirs, on faisait un FaceTime qui pouvait durer une demi-heure, une heure pour se raconter nos journées. Voilà. Et donc tous les week-ends, on faisait des allers-retours. Donc soit c'était nous qui avions à Rouen, soit c'est eux qui venaient sur Paris. Et puis toutes nos vacances étaient planifiées aussi ensemble. Donc,
alors je suis obligée de vous poser la question. C'est-à-dire que vous faisiez l'amour à quatre dans le même lit?
Oui, tout à fait. Alors au début, c'était... de toute façon, c'était très, très souvent à quatre vraiment ensemble. Il y a eu forcément des fois où c'était pas ensemble, mais c'était pas quelque chose vraiment qu'on cherchait. C'était vraiment tous les quatre ensemble. Et puis bon, avec le temps, ça devenait un petit peu 2+2 pour certaines raisons, mais c'était toujours...
Et vous arriviez à dormir dans le même lit à quatre?
Alors non, contrairement à votre première invité, mais parce que là,
il n'était que trois.
Voilà, c'est ça. Donc là, on avait cherché des grands lits, mais on n'a pas trouvé. Ouais. Alors donc il y a quelque chose qu'on avait mis en place à Paris. Donc on avait un lit queen size, et puis dessous il y avait deux autres lits, une place qui permettait de rouler et donc de se surélever. Alors je sais pas si vous voyez.
Je vois pas bien l'image, mais enfin vous êtes débrouillé pour avoir assez de place pour vous quatre, si j'ai bien compris.
Voilà, au final on avait quatre places. Voilà. Ça faisait un lit de place plus deux lits de place.
Alors là on parle des conditions matérielles, mais si on parle d'amour maintenant, comment peut-on vraiment s'aimer à quatre? Est-ce que vous aviez les mêmes sentiments, la même intensité les uns pour les autres?
Alors non, en fait c'est des amours qui sont forcément de nature différente, bien qu'on ait au début aspiré en fait à avoir quelque chose de parfaitement symétrique, de parfaitement équilibré, mais en fait force était de constater que déjà comme le disait votre première invité, il y a un historique qu'on peut pas rattraper. Nous ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, ou 4 ans, eux ça faisait 13 ans qu'ils étaient ensemble. Donc il y avait déjà ça, et puis c'est des formes d'amour qui sont très différentes, en tout cas moi je peux parler pour moi, qui sont développées pour chacun d'entre eux. Quoi.
Alors dites-nous à peu près quel type d'amour vous éprouviez pour les trois autres?
Pour Martin c'était quelque chose de très tendre, de très presque fraternel. Pour Jérôme il y avait quelque chose de plus passionnel, peut-être de plus physique. Et puis Stéphane, c'était... C'était filial presque, c'est-à-dire il y avait quelque chose de
Stéphane,
très
c'était
fort,
votre compagnon de à l'origine.
Ouais. Hein, oui, c'est ça, exactement. Ouais.
Donc, est-ce que vous allez rester avec nous pour l'instant, Alexis? On vous retrouve dans quelques instants en direct sur Europe 1.
Europe 1. Et vous pouvez bien sûr intervenir au 3921, mais aussi nous laisser quelques messages. Twitter, hashtag Europe 1 ou encore la page Facebook de l'émission vous attend. Partageons nos expériences de vie pour quelques minutes encore avec vous, Ève Roger. On parle des troubles de ces couples à trois qui essaient de s'aimer à égalité. Un amour à trois, malgré la jalousie et les difficultés du quotidien. Dernier témoignage.
Et oui, on le retrouve maintenant, Alexis, qui nous racontait tout à l'heure son histoire d'amour à quatre, son quadruple. Alors, est-ce que vous êtes toujours là avec nous, Alexis?
Oui.
Alors, Alexis, vous avez aussi connu des difficultés avec vos trois compagnons. Alors, c'était quel type de difficulté, là, quand on essaie de s'aimer à quatre?
Oh là là, c'est beaucoup de conflits. Donc déjà que c'est compliqué à deux, alors à quatre,
c'est
complètement démultiplié. Ouais. Alors il y a aussi, on peut imaginer toutes les mécaniques en fait de conflits qui se mettent en place. C'est-à-dire que, comme par exemple, j'avais des conflits avec Jérôme, Stéphane, donc mon historique avait tendance à prendre ma défense, et donc du coup, ça se transformait en conflit à trois. Et puis forcément, Martin après, il essaie de mettre de l'ordre souvent dans tout ça, mais ça ne marchait pas forcément.
Est-ce qu'on peut dire que c'était les jalousies qui étaient à l'origine des conflits, ou il y avait même des conflits sur ce qu'on mange, ce qu'on fait, comme dans un couple classique?
Alors, au départ, il pouvait y avoir un petit peu autour de la jalousie, mais on communiquait quand même pas mal. Puis c'est pas forcément un sujet qui a trop duré, parce que la confiance est vite installée. Mais après, oui, c'était vraiment sur des sujets très classiques. Moi, j'avais une personnalité assez différente. J'étais plus casanier, j'aimais plutôt pas trop anticiper les choses. Eux étaient très voyages et donc ne serait-ce que effectivement pour décider ce qu'on allait manger le soir, c'est
banal en fait,
c'est conflictuel.
C'est de la banalité dans une chose incroyable. Et donc finalement, je crois que cette relation à quatre a pris fin. Et comment s'est passée la rupture? Parce que l'amour, c'était magnifique ce que vous avez raconté, mais la rupture.
Oui. On a passé des vacances ensemble et où ça a été particulièrement plus conflictuel que les autres fois. Donc tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire mon caractère qui peut-être était un peu différent, était peut-être plus exacerbée, et donc on a passé des mauvaises vacances.
Ouais.
Et puis quand on est rentré, donc chacun de notre côté, moi je suis rentré avec Stéphane à Paris et eux sont rentrés à Rouen. Le lendemain, en fait, on a reçu une lettre de rupture, en fait, nous disant que c'était trop compliqué pour eux et que les inconvénients commençaient par l'emporter sur les avantages.
Et comment vous avez réagi vous-même ?
Effondré, hein, comme une rupture. Donc on a essayé de se retrouver avec Stéphane et de reconstruire notre couple, mais ça pas du tout été évident. D'ailleurs, on n'a pas complètement réussi.
Vous avez rompu aussi avec Stéphane ?
Alors, ça s'est pas fait dans cet ordre-là. En fait, ça a été aussi compliqué pour Jérôme et Martin, et donc ils ont voulu revenir vers nous. Enfin, nous aussi, on avait peut-être envisagé de reprendre quelque chose. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit « Non, mais moi, je suis plus prêt. Mmh. » Et donc voilà, il n'est pas question qu'on reprenne quelque chose avec eux. Et pour Stéphane, il était hors de question, au contraire, qu'on refuse.
Mais donc finalement, donc, aujourd'hui, vous en êtes où, Alexis ?
Eh bien, du coup, moi, je me suis séparé de Stéphane. Il n'était pas question à l'origine que du coup, il continue
une histoire. Ah oui, seul avec les autres, oui. Mmh.
Voilà, mais finalement, les sentiments étant toujours là, finalement, eux sont toujours en trouble pour le coup.
Ah, eux sont en trouble. Et vous êtes seul.
Oui. Voilà, c'est ça.
C'est trois plus un. Voilà. Et est-ce que la vie après, une fois qu'on a vécu quand même ce déploiement d'amour, j'allais dire, est-ce que la vie semble pas un peu fade après ?
Non, elle devient reposante. c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je regrette pour rien au monde, mais je ne revivrai pas ça.
Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est finalement impossible comme configuration ?
Ah ben non, je pense que ça aurait pu durer plus longtemps. Il y a eu aussi des événements de vie qui font aussi que ça a stimulé ces conflits. Peut-être que si ces événements n'étaient pas survenus, peut-être que ça aurait pu marcher.
Ouais.
Donc non, je pense que c'est quelque chose qui est envisageable sur long terme.
Oui.
Ouais. Ben, eux, ça fait déjà, ne serait-ce qu'en trouble, ça fait déjà, six ans qu'ils se côtoient. Donc voilà.
Et ça marche.
Et ça marche, oui, ça marche très bien. Ouais.
Alors c'est à cause de vous que ça n'a pas marché, c'est votre caractère que vous nous avez décrit. Vous êtes trop casanier, Alexis. Mais vous allez peut-être trouver les chaussures à votre pied. Restez avec nous, je me retourne vers Alexia Backwell pour finir cette émission. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute et fondatrice du cabinet de curiosité féminine. Une histoire d'amour à trois, ça semble difficile, mais alors à quatre, ça paraît vraiment impossible, hein, comme nous l'a raconté Alexis.
Oui, ça paraît d'autant plus difficile parce que ça demande beaucoup plus de communication encore que quand on n'est que deux. Et forcément, les caractères sont très différents. À quatre, il y a un déploiement de personnalité.
Ouais.
Donc forcément, des explosions plus faciles. Ça peut évidemment compliquer la chose.
Mm-hmm.
Mais à partir du moment où il y a une communication qui s'engage et qui est existante véritablement, dans l'honnêteté, dans l'équité, je crois qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur du long terme.
Oui, c'était justement ma question. Est-ce qu'il y a des conditions, on pourra définir les conditions pour lesquelles un couple, un trouble peut fonctionner correctement ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre ?
Je crois qu'il y a des choses, déjà c'est des consensus qu'on fait, hein, donc forcément il faut que de part et d'autre les choses soient posées et qu'elles soient acceptées par tout le monde.
Mmh.
Et cette non-exclusivité finalement, c'est jusqu'où on l'amène et ces règles, il faut qu'elles puissent aussi, toutes les règles qu'on va imposer dans cette configuration-là, il faut qu'elles puissent être changeables à tout moment, puisque effectivement il y a des gens personnes qui, au bout d'un moment, vont avoir besoin de remettre un peu de l'ordre dans ce qui s'est fait jusque-là, parce qu'aujourd'hui, ça devient plus difficile. Et donc, il y a de nouveaux consensus à faire, évidemment. Et puis, parfois, on peut aller plus loin et dire, est-ce qu'on n'accepterait pas une autre personne encore à aimer, finalement, et être 5, et être 6, et pourquoi pas ?
Pour vous, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite.
on peut s'aimer vraiment à plusieurs. Merci beaucoup, Alexis, d'abord, de nous avoir fait partager son expérience de quadruple. Oui. Merci à Nico, à Loïc, à Suzy de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. Et à vous, Alexia Backwell, pour votre éclairage.
Merci.
Grâce à vous, grâce à eux, nous avons compris que le trouble, ces couples à trois, étaient en équilibre instable et qu'ils ne pouvaient fonctionner qu'à certaines conditions. D'abord, que la relation s'installe naturellement, spontanément, une construction artificielle presque forcée ne peut s'épanouir complètement. Ensuite, il faut impérativement que ce soit un choix de vie partagé par tous. On a vu, on a entendu qu'une femme qui accepte la maîtresse de son mari à contre-cœur dans le lit conjugal a du mal à être heureuse.
Mais si c'est le souhait de chacun, alors il faut communiquer, beaucoup plus encore qu'à deux, débriefer chaque malaise, chaque crispation, et même s'ils sont infimes, pour éviter douleur, jalousie et malentendus. Enfin, toujours fixer des règles à l'avance, vous nous l'avez dit Alexia, même si elles peuvent évoluer, est-ce qu'on se voit toujours à trois ou parfois à deux? À quelle fréquence? Que chacun s'y tienne avec rigueur? Car le trouble est une mécanique de précision inédite et sans modèle, où chacun peut perdre pied et son équilibre à n'importe quel moment.
Et vous pouvez continuer à en discuter sur les réseaux sociaux. Un rendez-vous sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1. Demain, vous allez forcément vous sentir concerné. Nous nous demanderons si les disputes en famille sont un passage obligé quand on part en vacances ensemble. Alors, si vous êtes en vacances là en ce moment, dans une grande maison de famille, grands-parents, enfants, petits-enfants et pièces rapportées, et que ça ne se passe pas très bien, si vous êtes en vacances avec des ados pendus à leur portable et qui râlent tout le temps, ou si vous êtes à deux, en amoureux, que vos vacances virent au fiasco alors que vous attendiez tellement ces retrouvailles, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Nous attendons vos appels avec impatience. Merci infiniment à mon quadruple de choc, Benjamin Lévesque, pour la préparation de cette émission, Boris Paczynski à la réalisation et Marlène à l'animation.
Et merci à vous, Eve, c'est un bonheur d'être à vos côtés.
Et bien moi aussi, je vous laisse maintenant pour deux heures de musique en compagnie de Karima Charny qui vient tout juste de s'asseoir à côté de moi. Bonjour Karima.
Bonjour Eve, bonjour Marlène. Bonjour.
Alors cet après-midi, vous faites une spéciale années 90, alors rappelez-moi ce que j'écoutais à
alors,
cette époque-là.
Exactement, en fait, on parle beaucoup avec les réseaux sociaux dans l'émission musique et on a eu des demandes, on nous a dit on aimerait bien, eh bien remonter un petit peu dans le temps et revivre eh bien tous ces tubes qui nous ont bercés pendant cette décennie incroyable. Donc c'est parti pour les années 90.
Alors je vous souhaite une bonne émission.
No doubt.
No doubt, bien sûr, au rendez-vous, on parlera AC/DC, mais vous savez bien, les années 90, ce n'était pas que ça. Vous n'échapperez pas au To Be Free, Alliage et autres Spice Girls, bien entendu.
Merci beaucoup, bonne émission, Karima.
Merci beaucoup.